avec Yaws and Shaw. Boisé sur le slalom, music a zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Salut, c'est Keith Kuna. Vous écoutez Cheese 94.3 à Québec, la meilleure radio de cette ville, l'essentiel.
Hello, ici c'est Petit Béliveau. Puis vous écoutez CHYZ 94.3, le meilleur des radios campus de la planète Terre.
Bonjour, ici Cœur de Pirate et vous écoutez Chéri J'arrive sur Cheese.
Cette émission est commanditée par le Festival de diffusion alternative Le Focof, qui sera de retour du 21 au 25 février 2022. Toutes les informations au focof.com.
Il est 4 heures.
Bon jeudi tout le monde, vous écoutez l'émission du 20 janvier, l'émission Chérie j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de la nouvelle acquisition du Festival d'été de Québec, de cette salle de spectacle sur Saint-Joseph, où on a connu le Cercle, où on a connu le Dauteuil, et maintenant le Festival d'été de Québec qui va ouvrir une nouvelle salle de spectacle. On parle avec Anne Hudon, la directrice générale du Festival d'été de Québec, à partir tout de suite après l'introduction. Il y a aussi Émilie Rioux qui va venir nous dire un mot sur cette nouvelle-là. À 16h30, j'ai Olivier Amiot, la douceur du groupe Festut, qui va venir me parler du Festival Québec Rock Fest. Après ça, je vous parle de nouvelles de festivals qui sont annulés ou de musique qui vont sortir bientôt. Et à 17h, c'est la chronique Histoire de lire avec Alex Tremblay-Lamarche. Donc, manquez pas ça. On est ensemble jusqu'à 17h30. L'émission du jeudi 20 janvier de Chéri J'arrive, c'est maintenant.
Même s'il est tard.
c'était Je ne te dirai pas de Julianne et San James. C'est une chanson qui vient de sortir cette semaine. Et maintenant, je vais vous parler d'une toute nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Eh bien, l'équipe du Festival d'été de Québec a fait l'acquisition du 228 rue Saint-Joseph-Est où une salle de spectacle va être ouverte. Au fil du temps, on a vu la Galerie Rouge, on a vu le Cercle. Plus récemment, ça portait le nom du Dauteuil. Et j'ai maintenant la directrice générale du Festival d'été de Québec, Anne Hudon, qui vient répondre à mes questions. Bonjour, Madame Hudon. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Cette nouvelle-là, c'est pas rien pour le milieu culturel de Québec, le milieu musical. Qu'est-ce que ça signifie pour l'équipe du FEC de sortir cette nouvelle-là aujourd'hui?
Ben c'est ça, je peux vous dire que ça signifie énormément pour notre équipe aussi. C'était quelque chose qui était un désir, un souhait depuis quand même plusieurs années. Lorsqu'on a fait l'acquisition de l'Impérial Bell, tout de suite l'équipe s'était dit que ça nous prendrait aussi une salle de plus petite envergure pour certains spectacles, certains types d'artistes, pour la relève, puis pouvoir justement à travers toutes nos propriétés, nos plateaux, faire évoluer notre relation avec les artistes. Donc, il n'y en a pas des tonnes, hein? Puis elles ne sont pas à vendre que celles qui se situaient à deux portes de celles qu'on possédait déjà soient mises en vente, que l'immeuble soit mis en vente, c'était inespéré. Là. Donc, il a fallu se mettre sur la pointe des pieds, regarder au-dessus des nuages, puis voir au-delà de la crise, puis se dire non, ça c'est vraiment une super opportunité pour notre équipe, puis pour Québec, puis pour la scène musicale à Québec.
Ben justement, j'aimerais ça qu'on parle de cette scène-là parce que j'aimerais savoir quel impact que vous pensez que ça va avoir auprès des autres acteurs. On peut penser aux promoteurs des salles environnantes. Vous avez parlé des artistes. On peut parler de ces artistes-là, du public. Il y a beaucoup de monde que ça va toucher. Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme impact?
Ben c'est sûr que quand on va dévoiler notre projet au complet, le nom, etc., Louis Delavance va pouvoir venir vous en jaser peut-être un petit peu plus en détail, mais je crois que, bon, c'était premièrement le fait de conserver la vocation de cette salle-là, je pense que c'est la première bonne nouvelle parce que c'était une salle de spectacle. Donc, on modifie pas l'écosystème, on contribue finalement à l'accélérer, que ce soit un catalyseur. Nous, il y a peut-être des opportunités qu'on manquait à l'Impérial Bell qui vont pouvoir se concrétiser puis voir le jour de l'autre côté. On pense aussi, bon, pour la relève, c'est sûr, ayant un événement comme Saint-Roch-XP, Capignon-sur-Rue dans ce quartier-là, de pouvoir avoir une opportunité à l'intérieur pendant cet événement-là. Si on se promène un petit peu dans le monde, on voit bien que les festivals, souvent, les festivals boutiques un peu comme ça, donc il y a plusieurs scènes intérieures, extérieures, lorsque on peut se mettre un petit peu à l'abri des intempéries, puis être certain qu'il y a une partie de la programmation qui ait lieu coûte que coûte, ça c'est super intéressant aussi. Alors, c'est que des bonnes nouvelles aussi pour les employés chez nous. Nous, on souhaite, le festival d'été emploie, vous savez, là, tellement de gens, mais on a une équipe, un espèce de noyau dur à qui on assure des emplois. Donc, plus on se diversifie, plus ces gens-là restent avec nous pour faire leur métier, finalement, à temps plein. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle aussi.
Et je voulais savoir aussi, justement, les salles qui sont autour, est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet, que ça va activer la scène? Il n'y aura pas, justement, un jeu un peu de... Les gens vont vouloir organiser un spectacle avant l'autre. Quel impact vous pensez que ça va avoir auprès de ces personnes-là en particulier?
Bien, comme je vous le disais, c'était déjà une salle de spectacle avec la même capacité, donc c'est un peu dans la continuité. Ceci étant dit, une salle comme ça, à l'Impérial Bell, on reçoit aussi des spectacles pour lesquels on n'est pas des producteurs. Des fois, on n'est pas producteur du tout. Des fois, on est en coproduction. Des fois, on produit. Donc, ça va être la même chose dans cette salle-là aussi. Donc, je pense que ça va contribuer à l'effervescence du quartier et de la scène musicale définitivement.
Tout à fait. Je me demandais, pour les prochains mois, c'est quoi le plan de match? Est-ce que vous avez déjà une idée de la date d'ouverture ou qu'est-ce qui s'en vient pour la suite?
Ce qu'on veut ou ce qu'on peut?
C'est vrai aussi qu'en ce moment, si on voulait ouvrir une salle, on ne pourrait pas. Donc, on fait avec ce qu'on a. Mais comment vous voyez la suite?
Bien honnêtement, même si demain matin, on nous donnait la possibilité d'ouvrir, on n'est pas prêt tout de suite. On va d'abord dévoiler le projet. Donc, c'est quoi le nom de cette salle-là? C'est quoi son image graphique, c'est quoi son énergie, tout ça. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Ensuite, bon, on va commencer à programmer pour avoir du temps pour mettre en vente aussi. Puis on espère qu'à travers toutes ces étapes-là, puis des plus plates aussi, là, je vous fais grâce, là, permis, etc. Donc, on espère que des semaines, mois que ça prendra pour terminer ces préparatifs-là vont nous amener puis vont arriver sur la ligne de départ en même temps que toutes les levées de capacité puis le contexte sanitaire sera mieux. Et pas au printemps, c'est notre souhait.
Ben, on va suivre ça de très près. Avant de vous laisser, j'aimerais ça savoir, on a parlé de la Galerie Rouge, du Cercle, du Dauteuil. Mm-hmm. Quelle est la suite? On parlait de la programmation un peu, mais quelle est la suite des choses? Est-ce que vous voulez garder un peu l'héritage que ce bâtiment laisse sur la rue Saint-Joseph?
Ben, ça va trahir un peu mon âge, là, mais moi, je suis quelqu'un qui a assidûment... fréquenter le cercle. J'avoue qu'on en parle beaucoup. C'est présentement notre premier objectif, puis dans le contexte actuel aussi de la pandémie, on se concentre sur la notion de salle de spectacle. Donc, de faire arriver ça, c'est déjà beaucoup. Le local est vraiment plein de potentiel. Effectivement, les expositions qu'il y avait au sous-sol, tous ceux qui sont déjà allés s'en rappellent. Ouais. On a des idées, ça, on en a plein. Mais présentement, on se concentre sur la vocation salle de spectacle dans un premier temps, pour l'ouverture du mois.
Ben, on va attendre les prochaines informations avec impatience, autant le nom que les événements qu'il va y avoir là-bas. C'est déjà ce qui conclut notre entretien. Je parlais avec la directrice générale du Festival d'été de Québec, Anne Hudon. Merci beaucoup d'être passée à l'émission.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Encore et je te crève les yeux. Montre-moi l'eau bénite et je lave le plancher. Claque sur le tête parce que je peux pas être fâché. Tais-toi dans le carcan. Crucifix de tourment. Tais-toi dans le carcan. Reviens à moi. Monsieur Benjamin. Ça peut se voir que tout est dans la manière que tu aimes ton prochain. Dès le lendemain, tu te fais prendre comme un chien. Marie-Madeleine, Marie bénie de Dieu. Monsieur Benjamin fait quand même de son mieux. Mais quand j'irai encore, si c'est juste une mauvaise passe, vivre, laisser vivre avec du plaisir. Monsieur Benjamin s'est acheté un chien. I'm not afraid of the dark.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Quatre Corps, le véritable hit de Hubert Lenoir sur son album Pictura de Ipsy Musique Direct qui est sorti en automne dernier. Et j'ai plus besoin de vous le présenter, Hubert Lenoir. Donc, on va passer à d'autres choses. On va parler de Marigold qui a dévoilé sa pochette pour son album. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de Marigold. Et encore une fois, c'est une bonne nouvelle qu'on a. On a la date de sortie aussi de son album qui va sortir le 11 février. Cet album qui va porter le titre de Bienvenue à Baveux City. Elle dit qu'elle a cruellement hâte de faire visiter cette ville à capacité infinie en musique, en images et en théâtre, plein de rebondissements. Cette couverture qui fait très Hollywood, on pourrait voir des influences aussi de Paris Hilton. C'est une couverture qui a été produite par Félix Renaud. Et Bienvenue à Baveux City, c'est un album concept qui va présenter une ville fictive qui porte le titre de Baveux City. Vous l'aurez bien compris. Marigold incarne la dite baveuse de cette ville et elle mélange l'absurde, de l'engager, le ludisme, la sensibilité, la richesse. Elle parle beaucoup de plusieurs thèmes, entre autres politique. Elle parle de l'environnement, de médiatisation, l'égalité homme-femme. Elle allie des beats solide et varié à ses compositions, à ses textes de rap. Bienvenue à Baveux City se veut comme une immersion musicale dynamique, divertissante, réfléchie, un univers qui est coloré, qui est rarement vu aussi dans le paysage québécois. On voit pas non plus ce côté baveux-là. On connaît ça du côté des rappeurs masculins ici au Québec, pas juste au Québec. Dans le rap en général, être baveux, c'est quelque chose de classique. Mais pour les rappeuses ici du Québec, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On peut penser à Naya Ali, la rappeuse anglo, qui, elle, est quand même dans cette culture du rap, mais qui n'est pas seulement sur ce côté baveux. Mais là, Marigold, elle y va, et elle a sorti C'est qui le boss, une de ses chansons que j'adore. Moi, je trouve que c'est un ver d'oreille. Donc, on va y aller avec C'est qui le boss. Et juste avant ça, j'aimerais ça vous dire en avance quelle sortie on peut attendre demain, parce que, comme vous le savez sûrement, le vendredi, c'est les journées de sortie. Donc, on va être gâtés. Hier, je parlais de la chanson Crash, la collaboration entre Les Louanges et Corneille. Eh bien, l'album qui porte le même titre va sortir demain. On a hâte de voir si il va y avoir d'autres collaborations aussi avec ce cher Vincent Roberge, originaire de la rive sud de Québec. Il va y avoir l'album aussi Fragment de Lila. On va la recevoir à l'émission demain. Lila, c'est avec deux I. Ce n'est à ne pas confondre avec Lila, l'artiste de Québec. Il y a un autre artiste de Québec qui va sortir quelque chose demain, L'Oiseau Sirois et le dernier Rodéo. Guillaume Sirois, auquel on l'a reçu à l'émission mardi, c'était pour parler de la mort de Karim Ouellet, puisqu'il était proche de lui. Ben là, il sort un album avec son projet musical. Il y a aussi l'album Ex Voto de Loni. Je vous en avais parlé un peu plus tôt cet automne. Et ben là, c'est disponible dès demain, le 21 janvier. On se laisse en musique. Je vous en avais parlé plus tôt de C'est qui le boss, la chanson de Marigold. Et au retour, on va parler avec Émilie Rioux, celle qui animait Chérie J'arrive juste avant que j'arrive il y a un an. Elle a, depuis ce temps-là, une place importante dans le milieu artistique musical de Québec, et je voulais avoir son avis sur l'acquisition de ce feu d'Auteuil, le cercle. Donc, je voulais savoir son avis sur ça. Au retour, on va jaser avec Émilie Rioux. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est qui le boss, motherfucker, that's me. Fais ça, c'est quand je parle, j't'ai pas demandé d'avis. Toi t'es dans tout, yeah yeah, what's good. Comment tu veux, j't'écoute, t'as de la marde dans le bouche. C'est qui le boss, motherfucker, not you. Tu peux me corriger qu'avec auto-tune. Chacun son business, mais ton business, j'm'en fous. Chacun son business, mais ton business, j'm'en fous. C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui genre de cash,
Marie.
Qui est son back,
j'arrive.
C'est qui le boss, c'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son back,
j'arrive.
C'est qui le boss, motherfucker, c'est Marie.
C'est Marie.
Puis cite pour se faire des amis,
non.
Ses mains propres ont fini par se saler, après avoir passé la main peu toutes ces années. Qui gère le cash, motherfucker, that's me. J'crée des emplois bonnes pour l'économie. Vous parlez too much, j'essaie juste de nommer l'employé du mois pour me faire pardonner.
Je parle en cachet et je braille en cachet. Je vis dans un carré car j'aime carré coché. Si tu me devances ou dada coché, ils me lancent des roches, aïe aïe ricochet. C'est pas dur à engager mais yeah, j'engage. Mais c'est que c'est pas dur à catcher comme un langage. Je profite de l'emploi et quand il y a longueur, si je vous crie après c'est de bon cas.
C'est qui le boss?
Marie.
C'est qui le boss? C'est qui le boss?
Marie.
Qui gère le cash?
Marie.
Qui est son bac? C'est qui le boss, c'est qui le boss?
Marie.
Qui gère le cash?
Marie.
Qui est son bac?
J'arrive.
Toc, toc, toc. Qui est là?
La.
La qui?
La qui est le boss?
La qui est le boss?
La qui est le boss?
Hey, hey, hey.
C'est qui le boss?
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss?
Marie.
Qui gère le cash? Son
bac. J'arrive.
C'est qui le boss?
Marie.
C'est qui le boss? C'est qui le boss?
Marie.
Qui gère le cash?
Marie.
Qui est son bac?
J'arrive.
Yeah, 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 yeah. Papa Pure. Hey, hey, hey. C'est qui le... C'est qui le boss?
C'est qui le boss? C'est Marigold, mais c'est aussi Émilie Rioux, véritable actrice de cette scène culturelle, cette scène musicale à Québec. Et j'ai le plaisir de lui parler aujourd'hui pour parler de cette nouvelle acquisition du d'Auteuil par le FEC. Salut Émilie, comment ça va?
Hey, ça va très, très bien, Félix. Je suis contente que la nouvelle soit finalement rendue publique.
Ben, c'est ça. Moi, j'ai pris comme conscience de ça. On m'a dit que dans le milieu, ça jasait depuis un bon moment. Puis là, c'est disponible au public. Qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu la nouvelle sortir?
Bon, évidemment, moi, j'avais entendu des rumeurs depuis quelques temps déjà. En fait, on se souvient que d'Auteuil avait été mis en vente. Je pense que l'an dernier, là, il y a environ un an, la nouvelle était sortie, comme quoi d'Auteuil était en vente. Bon, il y a des gens que ça surprenait, d'autres que ça surprenait moins. Je fais partie de la deuxième catégorie parce que ça roulait pas sur l'or, ça allait pas très, très bien. L'orientation, en fait, que d'Auteuil avait fait de cette salle-là après moult rénovations, on se souviendra bien. Donc, je n'étais pas surprise, en fait, de voir que c'était en vente. Après, quand on a su, il y a peu de temps, que ça avait été racheté. C'est là que la nouvelle a couru comme quoi c'était le festival d'été qui l'avait racheté. Et ça, ben, ça a suscité énormément de discussions dans le milieu. Aujourd'hui, ça en suscite de manière plus générale, puisque, bon, la nouvelle a été rendue publique dans les médias. On ne sait plus, finalement, si... c'est 100% une bonne nouvelle ou pas. Bref, ça fait toute des belles discussions quand même.
Ben oui, puis on en a jasé un peu. Tu m'as dit que tu as récolté des témoignages autant du côté qui est en faveur de cette transaction-là, puis d'autres qui trouvent que c'est pas nécessairement un bon coup. Par quoi tu veux commencer?
Ah ben écoute, je suis pas pour faire l'avocat du diable, évidemment, mais j'ai eu plusieurs discussions vraiment intéressantes avec des gens qui viennent de toutes sortes de milieux dans le milieu artistique. C'est-à-dire des gens qui sont du côté de l'humour, des gens qui sont davantage du côté de la musique, du théâtre, bref, ce qu'il faut donc prendre en considération, parce que du moment où on sait que le Festival d'été a fait l'acquisition d'Auteuil, c'est qu'on a pratiquement un monopole de la rue Saint-Joseph, ou en tout cas de cette section-là de la rue Saint-Joseph, puisque le Festival d'été possède déjà, en fait, opère déjà l'Impérial Belle. Il a fait renommer d'ailleurs Impérial Belle depuis que c'est le Festival d'été. Ensuite, a acheté le petit Impérial qui est devenu le district de Saint-Joseph. Et là, la porte voisine, finalement, c'était le Cercle qui est devenu d'Auteuil, où le Festival d'été, par ailleurs, a déjà programmé des spectacles dans un passé lointain. Le Festival d'été avait tout de même a déjà eu une bonne relation avec le Cercle à cette époque-là. Donc, ça a quand même pas été de tout repos, là, la relation du FEQ avec ce local-là. Mais je n'étais pas surprise de voir qu'ils ont vu l'acquisition. Pour moi, c'est une suite logique, finalement, dans ce qu'ils souhaitent faire, finalement, avec la scène de divertissement, spectacle de la Basse-Ville de Québec qui se développe de plus en plus d'année en année. Mais il y en a certains, donc, qui voient quand même certaines hésitations avec l'idée de cette espèce de monopole-là, avec l'idée que, bon, ça amène peut-être peu de diversité. sait que le Festival d'été de Québec opère à l'année. Maintenant, on le sait, il porte, c'est le 3E également, donc c'est également une gang qui organise énormément d'événements à l'année longue. On peut penser à Fnérocité, notamment, donc on est en lien avec le secteur. Et donc, c'est certain que ça va leur permettre à eux davantage d'exploiter cette envie-là de produire des événements à l'année, de toutes les sortes, sauf qu'ils ont une force de frappe, le Festival d'été de Québec, ils ont un budget quand même considérable que les autres plus petits joueurs n'ont pas nécessairement. Alors, je pense que l'inquiétude ici quant à la multitude des lieux de diffusion dont dispose la SEQ en ce moment, ben, c'est surtout qu'on se demande s'ils vont pas prendre toute la place pour finalement, ils vont peut-être pas défavoriser en fait les plus petits joueurs, les plus petits organisateurs de spectacles qui auront peut-être pas eux la marge de manœuvre finalement pour accoter le festival d'été. Je sais pas si tu me suis.
Ben oui, ben je veux justement continuer dans cette direction-là. Je veux te poser la question, est-ce que ça veut dire que c'est la scène de Québec qui est trop petite pour avoir autant de joueurs ou comment tu vois ça?
C'est difficile à dire. Bon, faut dire que la scène de Québec est en grande modification et il y a beaucoup de il y a comme un jeu de chaises musicales qui s'opère dans les lieux de diffusion à Québec qui sont pas si nombreux par ailleurs au centre-ville. On les compte sur les doigts d'une main. On le sait lorsque le cercle a fermé ses portes pour laisser place aux Auteuils. Il y a le Maelstrom qui est devenu un plus petit lieu de diffusion. Le Pantoum donc qui est revenu dans le décor récemment. En fait, le problème ici, c'est qu'on ne dispose pas de beaucoup de lieux de diffusion à cette petite jauge. Et j'entends par là des lieux qui peuvent accueillir peut-être 100, 200 personnes. Et on a besoin à Québec de conserver précieusement ces lieux-là parce que c'est comme ça qu'on peut parvenir des artistes qui sont représentés comme un plus grand risque, entre guillemets. Donc, il n'y a pas que des artistes qui vont remplir le Centre Vidéotron, vont remplir l'Impérial Bell ou le Grand Théâtre. Il y en a également qu'on peut venir à Québec qui vont peut-être attirer 100, 200 personnes parce qu'ils font quelque chose de plus niché ou qui sont pas encore très connus. Et c'est bien comme ça, il faut que ça le reste, en fait. Et généralement, ben, c'est des organisateurs de spectacles qui sont un petit peu plus audacieux que le Festival d'été, généralement, qui vont investir ce type de lieu-là. Alors, je pense pas que c'est une question de Ville de Québec qui est trop petite ou de pas assez de joueurs. C'est tout simplement que je pense qu'il y a un élément dans la santé, peut-être, d'une scène dans une ville, dans la capitale, qui tient justement à conserver des lieux comme ça, qui demeurent indépendants. Donc, d'avoir quand même, de conserver des lieux indépendants, on va pouvoir programmer des choses un peu plus funky, ça reste important. Maintenant, est-ce que le FEQ vont programmer uniquement des affaires basiques ou des trucs qui font l'unanimité dans leur nouvelle salle du Dauteuil? Est-ce que ça va changer de nom? Quelle sera la vocation de cette salle? Je crois que pour l'instant, non, c'est tout.
Ben oui, justement, elle disait que le nom, la programmation va sortir plus tard. Mais je voulais avoir ta vision de cet angle-là, d'avoir un véritable géant de l'industrie culturelle, d'avoir le fait qui va programmer, qui va organiser des événements dans ce lieu-là. C'est pas justement en raison de leur budget, ils ont pas plus de marge de manœuvre pour aller proposer des trucs plus, comme tu disais, entre guillemets, risqués.
Oui, ben on le souhaite au final. Et je tiens à dire que malgré toutes les réserves que j'ai pu amener à la discussion dans les dernières minutes, et malgré les hésitations et malgré évidemment là, les inquiétudes que ça peut susciter, moi je demeure quand même quelqu'un qui a confiance en le Festival d'été. Durant leur événement principal, ont souvent booké, ont programmé des artistes plus nichés que j'ai été vraiment contente de voir et même de découvrir au SEQ. Je pense qu'ils remplissent bien leur mission généralement de ce côté-là. Je pense qu'ils sont généralement aussi là pour la scène locale dans des événements comme Fnérocité. On les a toujours vus piger dans les artistes de la ville de Québec en premier, faire des ententes avec l'ampli. Bon, ils sont pas tout blancs non plus. Je pense que le SEQ s'est aussi fait reprocher dans les années de ne pas être assez diversifié dans les cultures qu'on va présenter sur la programmation, également de ne pas être paritaire. Ça aussi revenu dans les débats. Alors, je pense que mon seul souhait de ce côté-là, c'est, oui, que le FEQ puisse utiliser leur marge de manœuvre afin de nous présenter dans ce lieu-là des artistes qui vont de pair avec la jauge, des artistes qui vont être un petit peu outside the box, en bon latin, qui vont pouvoir peut-être mieux refléter ce qui manque en ce moment dans le puzzle de la Ville de Québec. Parce que, bon, c'est pas tout que programmer toujours des valeurs sûres. Je pense que c'est important qu'on puisse faire des découvertes. Alors, j'espère que le FEQ pourra peut-être mieux exploiter la salle en ce sens-là. Toutefois, je sais aussi que le Festival d'été commence à s'intéresser de plus en plus à la programmation de spectacles d'humour. Ils nous l'ont également, là, je ne veux pas partir de rumeurs, mais ils nous l'ont quand même démontré lors du dernier FEQ, là, où ils ont inséré quelques artistes de l'humour à travers leur programmation musicale. Alors, moi, j'ai quand même quelques doutes en ce qui a trait à la nouvelle vocation de la salle, comme quoi ça pourrait s'orienter davantage du côté de l'humour pour le nouveau d'Auteuil.
C'est assez intéressant. On va suivre ça. Puis, pour le milieu musical, ben, ça va être de voir est-ce que le fait qu'il va pouvoir piger de ses programmations de peut-être plus petits festivals, on peut passer la fête de la musique à Québec, on peut penser à Saint-Roch XP, ben pas Saint-Roch XP, mais la programmation de salles en général pour après ça les booker à cette nouvelle salle-là, puis peut-être s'en servir pour un tremplin ensuite à les booker à l'Impérial. On a peut-être quelque chose qui prépare, on va espérer le mieux, mais merci Émilie Rioux d'être passée à l'émission pour analyser cette situation-là sous tous les angles.
Ouais. On continuera, Félix, d'observer attentivement ce qui va se passer. J'ai envie de te dire que la même manière dont le d'Auteuil ensuite a pris le relais pour le cercle, on avait l'impression que tout le monde les watchait pour savoir ce qu'il allait faire avec ça, parce que c'était une salle qui est hautement symbolique, je pense, pour les tripeux de culture et de musique de la ville de Québec. Donc, de la même manière, j'ai envie de dire au FAQ, ratez pas votre shot, on vous fait confiance, mais on vous watch là-dessus. Bon,
je pense qu'on va avoir un retour à la vie, en guillemets, normale, qui va brasser pas mal. J'ai hâte à ça. J'ai hâte de pouvoir retourner dans des salles de spectacle. Donc, on se dit à la prochaine, Émilie. Merci de passer l'émission.
Merci beaucoup, Félix.
Salut.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les lundis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Salut, ici Pépé. Et sa guitare, et tu écoutes Chérie, j'arrive!
King Kong singing a song, Saturday night check pour un sound check qui sonne la tonne de prix. Appelle les flics, flea market Québec, piqueur de moustiques, de l'Amérique à l'Afrique. Les flics apprennent le fric, c'est ton devoir civique. Super power epic, sur ton poisson skipic. Just a record, Thor, Hitler, machine gun, Valkyrie, la vache qui rit, qui pisse, qui chie. Oh! Saturday check, c'est un ton bête. Aim for the head, juste dead, ton est sur pas de red. Miami, NYC, ou on dit que Danny est G comme Carony. Oh, du talent comme Billy, when my Jimmy Jerry. Gun Fury, casse sa cogne à la porte, mets tes culottes. Gun Fury, t'es le cop qui accote les bandits de la métropole. Gun Fury, ça pogne à la gorge comme une pauvre doll. Je sais qu'il parle, car il parle costaud, car t'es pas combo. À tête de compose, on avait un pot. On a mis au moins 20 piastres sur la clique au stade. Pis au moins une dime sur la sauce spag. J'suis tellement riche, j'te monte à ma gueule, j'suis dress plus humain. Gucci, il feel cheap dans sa Audi Buzzing. Cruising avec une big ten. Banana split, roulant de la split, dans deux drogues, passe Van Damme's mérite, son hommage, style de leur clip. Oui, José Haute, sacrée, bench, 10 plaintes de 1000 livres. Batmobile, va pas pire, va-t'en sénile. Longe pas les murs de l'asile, all clear. Tu veux du beat, des feet, moi j'ai le gear, j'te lis par Post Canada.
C'était la chanson Kung Fury du groupe Festoot. Et je vous en parle parce que ils vont être en performance demain dans le cadre du Québec Rockfest. C'est une première édition d'un festival qui, ben là, on avait le droit à faire des spectacles dans les murs du quartier de Lune et sur le web. Là, ça va être juste sur le web. C'est débuté depuis décembre dernier, finalement. Et je parle maintenant avec Olivier Amiot La Douceur du groupe que vous venez d'entendre, Festoot. Salut Olivier, comment ça va?
Salut, ça va bien?
Oui, ça va super, j'espère que toi aussi. On va commencer par une présentation de toi, de ton groupe et de tout ce qui entoure Festoot.
Écoute, Festoot, comme le nom le dit, ça festoot, ça va dans tous les sens. C'est vraiment un projet à travers lequel on s'est permis beaucoup de liberté, puis on essaie de réunir un peu les penchants musicaux d'un et chacun. On est quatre gars très différents. Tony, MC vétéran à la batterie, t'es un gros fan de hip-hop, très très dans la groove. Huge Paint à la guitare, c'est un gars d'ambiance. Bon, il est un gros gars, un gars de funk aussi, mais aussi c'est vraiment un gars de couleur. Il aime créer des ambiances, c'est un gars de texture beaucoup. Puis Paul, lui, c'est gros polémiste, il a pas la langue dans sa poche, il a tout le temps beaucoup de choses à dire, puis même si c'est pas nécessairement cohérent, ça finit tout le temps par faire du sens. Puis moi-même, je suis là pour la joie de vivre.
Tout à fait. Et tout ce beau monde-là forme le groupe Festoot qui va être en performance demain pour le Québec Rockfest. Qu'est-ce que ça signifie pour votre groupe de participer à ce festival-là?
Ben, c'est probablement une super belle occasion de se produire sur scène. Malheureusement, c'est ça, nous, on est un groupe qui faisons vraiment la musique très festée. Ça prend vraiment tout son sens quand c'est devant public. Je pense que c'est la musique des fois plus calme un peu qui se prête un peu mieux à faire ça en virtuel, on va dire. Mm-hmm. Je dis pas que ça sera pas bon en virtuel, au contraire, ça va être super. Mais c'est vraiment une musique qui se fait en personne, là. Malheureusement dans le contexte, ça va être seulement en virtuel, mais je veux dire, on crachera vraiment pas là-dessus, d'autant plus qu'en fait on sort notre premier album, on le sort sur toutes les plateformes, va être seulement en numérique, mais sur toutes les plateformes à partir de demain. Fait qu'on est très, très, très heureux de pouvoir participer à cette première édition du Rockfest.
Ben, j'avais dans mes questions par rapport à l'aspect virtuel, comment est-ce que vous pensez justement adapter votre performance pour entre guillemets entertain le public, si tu le veux?
Ben, je te dirais qu'on va tout simplement faire comme si le public était là. En fait, on va leur parler à travers l'écran, là, puis donc pour que les gens à la maison se sentent bien interpellés.
Oui, puis tu l'as dit dans ta précédente réponse que demain, ce vendredi 21 janvier, est la date de la sortie de votre premier album. On peut savoir des informations par rapport au nom, à tout ce qui englobe la création de ce projet-là?
Par rapport au nom Street Bang, on a décidé de prendre ce nom-là qui est aussi le titre d'une des chansons. Mm-hmm. Le Street Bang, c'est vraiment un concept qui représente bien l'esprit du band, là. C'est le Street Bang, c'est un rassemblement festif qui a pas de frontières. C'est un endroit où l'amour fesse mais ne blesse pas. C'est vraiment c'est un univers festif où tout le monde est bienvenu, puis c'est ça. Tout est possible aussi.
Ben après avoir entendu cette définition-là, on comprend pourquoi on voudrait vivre cette expérience-là en présentiel, parce que comme il y a pas plus festif que d'être dans une foule puis de pouvoir danser, mais là c'est quelque chose qui est impossible malheureusement à faire. J'aimerais ça, Olivier Amiot La Douceur, te laisser le mot de la fin pour cette entrevue, puis te souhaiter un bon spectacle pour demain.
Ben déjà un gros shout-out à tous les Festoonies. On a hâte de vous montrer cet album-là qu'on toque depuis longtemps, qu'on a hâte de partager avec vous. Shout-out à tous nos collaborateurs, Piqueur, C'est ça beau, Ali Baber Studio, Stéphane Rancourt, on vous aime, puis on a hâte d'aller de l'avant avec tout le monde, avec toutes les Festoonies.
Nous, on va y aller avec Street Bang. Merci beaucoup, Olivier.
Et merci à toi.
Salut.
Salut.
We'll be right back.
on se limite à moi. Si mes amis n'étaient pas là, si ma famille ne m'aimait pas, si mon amour ne mettait pas des draps par moi sur le sofa, j'imagine le mal. La magie normale, le mercredi, pas mal. Il y a ce fanal, ce canal, au courant phénoménal. Une soupape de boum-pap pour que je cale.
Il me semble que la fixe de l'économique, elle s'appelle Sophie.
Et moi, j'aime tout le monde.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez This Dream, une chanson de Radiant Baby sur son album Pantomime. This Dream, moi aussi, j'aimerais ça faire un rêve de retourner dans les salles de spectacle parce qu'en ce moment, dans ma boîte de courriel, ce n'est que des annulations de spectacles, des annulations d'événements. Entre autres, Rideau qui est annulé, c'est l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles et justement cet événement, ce festival-là, Rideau, qui est contraint d'annuler l'édition 2022 de cet événement qui devait se dérouler à Québec du 13 au 17 février. C'est une décision qui a été prise parce que l'organisation avait comme but, comme à chaque année, comme chaque édition du Rideau, de faire un événement festif, rassembleur, qui avait une envergure assez importante, mais bien évidemment, les conditions sanitaires, les normes imposées permettent pas d'offrir un événement comme ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Rideau, c'est un genre c'est un événement où beaucoup de personnes de l'industrie, autant des maisons de disques, des agents de spectacles, des agents d'artistes, des promoteurs de salles, se rencontrent. C'est là qu'ils font, entre autres, les programmations de festivals. On présente les nouveautés pour être au goût du jour. Et c'est une bonne façon de faire ce qu'on appelle le bon vieux PR, les relations. Et en situation de COVID-19, eh bien, c'est pas vraiment possible de faire ça. Donc, ils préféraient annuler que de faire une édition soit virtuelle ou soit en plus petit... En plus petite proportion. Rideau, par contre, va tenir une rencontre prétanière à Québec. Ça va être du 15 au 17 mai prochain. Ça va être un genre de mini Rideau, un événement qui va offrir l'occasion aux différents acteurs de se retrouver dans des conditions qui, on l'espère, des conditions qui vont être sécuritaires et festives. On le sait qu'une fois que le printemps se pointe le bout du nez, une fois que l'été arrivé, les mesures souvent sont plus adoucies. On permet entre autres d'organiser des trucs à l'extérieur. Donc, on verra pour du côté de Rideau ce qui va s'en venir pour ce entre guillemets mini Rideau. Il y a des détails de cette future rencontre qui va entre autres avoir à sa programmation les ateliers du forum et du très attendu gala des prix Rideau. On va avoir des informations au courant des prochaines semaines à ce sujet. Il y en a qui annulent, mais il y en a qui continuent de faire aussi leur festival comme ils avaient prévu. Je parle du Fuck Off. Le Fuck Off, lui, c'est le Festival Off. Un festival off, c'est quand un groupe de personnes trouve que dans un certain festival, on représente pas bien toute la diversité d'une scène, d'un environnement culturel. Donc, ce groupe-là décide d'organiser leur propre festival et c'est ce que l'équipe du FOCOF fait depuis maintenant, si je me trompe pas, ça va être la 7e ou la 8e édition du FOCOF. Ça va avoir lieu du 21 au 25 février. Chérie J'arrive est entre autres commanditaire de cet événement-là. Les vitrines vont être présentées en ligne avec la possibilité de les regarder en direct dans des univers univers 3D immersif. Ça va être dans un genre de multivers, comme ils appellent. C'est l'occasion parfaite aussi de découvrir des artistes de la scène émergente, la scène alternative, de tous styles confondus. On a vraiment mis le paquet pour vous présenter tout ce qui est finalement musical à Québec, autant les vieux, les jeunes, le rap, le pop, le métal. On va dans tous les sens et l'équipe du Focoff qui travaille fort pour monter cet horaire diversifié, pertinent pour le milieu professionnel musical, parce que faut le dire aussi, il y a un volet professionnel. Il y a entre autres la série de panel Messe Basse, qui est une collaboration aussi avec lepointdevente.com, qui va être de retour cette année. Ça, c'est des conférences qui est donnée par plusieurs acteurs du milieu. On avait entre autres eu quelque chose sur la place des femmes en musique. On a finalement des sujets qui reviennent et puis qui sont vraiment au goût du jour, qui parlent de l'évolution de ce milieu-là, de comment les gens peuvent s'entraider. Et encore une fois, c'est une façon de faire du bon vieux PR. On va aussi... on va en parler quand ça va commencer, autant des performances que des conférences, des comptes rendus, des rencontres qu'on fait finalement à cet événement qui va avoir lieu du 21 au 25 février dans le métavers. Il va y avoir entre autres Belly, ça c'est une artiste de Québec qui va participer à ce festival. Ça me tente de vous faire écouter sa chanson, sa seule chanson, ça s'appelle À vos marques. Et moi, quand je me la suis faite présenter, on m'a dit ça sonne un peu comme les louanges, mais version féminin. Donc, voyez ce dont vous en pensez de À vos marques, Belly. Je pense qu'elle a une belle carrière qui va se dérouler devant elle. Donc, on y va et vous écoutez l'émission. Chérie, j'arrive. On continue après avec des nouvelles d'art et de culture, comme à l'habitude.
Chaque soir, ça recommence. On connaît le parcours par 40, la partie, le bar, le triangle des Bermudes. C'est notre tard promise. Je viens à peine d'arriver, on pack déjà nos valises. Flashback, hier j'étais trop scrap. Je comprends pas trop comment, mais aujourd'hui j'ai pas une scratch. Check ce qu'on a du fun, c'est notre sérum, la seule chose qui fonctionne. On n'a pas à demander l'avis de. Trouver un moyen de rester allumé. Sur nos listes pour que chacun de nous s'accomplisse. C'est marqué dans nos peaux, même en dessous des zéros, on y reprendra l'apéro. Il fait beau. Wow, trop attendu, les bras croisés, le son de cloche de la récré. Assis-toi, tais-toi, remplis ton crâne de données, mais les verres trop pleins finissent par déborder. Interdit de dépasser les lignes bêtes. Pas de lignes, besoin d'adrénaline dans ton jeune cœur, grenadine. Lâche pas, allez, vas-y, vas-y, sois toi. Les lignes de ta main t'empêchent de rien, faut choisir pour soi. Laisse faire l'American Dream, on n'est pas des machines, on fait tout de notre mieux pour trouver le juste milieu. C'est la course vers le succès.
on se lift up, on s'apprend à lâcher prise.
Retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Avant de se laisser pour la pause de 5 heures, je voulais vous parler d'une nouvelle. C'est Vandou qui met derrière lui toute l'aventure Millennium, cet album qui a sorti l'an passé. C'est plus précisément le 23 avril. Il sort le vidéoclip pour la chanson Boucan, un vidéoclip qui a été réalisé par Paul Provencher, qu'on connaît sous le nom de l'artiste Kirouac. C'est aussi réalisé par Noah, connu sous le nom d'artiste Noah Topia, lui qui a l'habitude de faire des vidéoclips entre autres pour Eman, Ken Lo, pour d'autres artistes rap du milieu émergent de Québec. Et on a un clin d'œil au passé de Skater de Vandou. J'aime bien finalement l'histoire qu'ils ont faite avec ce véritable hit de Vandou sur son album Millennium. On se laisse avec Boucan. Après ça, pause publicitaire. Au retour, on termine la dernière demi-heure avec Alex Tremblay, La Marche et sa chronique Histoire de lire. On y va avec Boucan de Vandou. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Jamais pile à l'heure, je prends plus rien au pied de la lettre. Tellement je flex avec les mots, on dirait que je fais du pilates. Et j'ai pris des livres, j'ai tout le temps la tête dans les bouquins. Cerveau dans la boucane, tes verres dans l'eau bouillante. Et on me lance des fleurs, j'ai tout le temps le nez dans les bouquins. Robert sur les billets, épices dans le bouillon. Et j'embrasse la vie, j'ai tout le temps les lèvres dans le bourbon.
La soirée va être longue avant de s'estomper. La seule question qui importe, c'est y en reste combien. Un jour ou un autre, c'est ce qu'on laisse tomber.
Pour qu'on me remarque dans la foule. Chaque matin je me donne un spectacle pour les godots dans ma douche. Je raconte la merde à l'infini. Il serait peut-être temps que je la boucle. La plus belle femme à mes pieds, je l'ai fumée dans un papier L. 14,4 km en guette, c'est manibette les M. J'avais Lucie dans le ciel, j'attends qu'Elisabeth et Belzébuth se baisse. En cuisine dans mon album, je suis comme Philippe, je baisse. Combien de billets vendus dans la place? Pour un seul vendu dans la pièce. Y'a plus personne dans les rues, je me sens comme Camus dans la peste. Le premier met des sports de masse, plus besoin de le faire en cachette. Mais ça convient dans la masse, les radios font jouer la cassette. Qui importe, c'est y en reste combien. Un jour ou un autre, c'est ce qu'on laisse tomber. On s'en retournera tous de où est-ce qu'on vient. Ça arrive à être long avant de s'estomper. La seule question qui importe, c'est y en reste combien. Un jour ou un autre, c'est ce qu'on laisse tomber.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent?
À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission 2 en 1, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. C'est maintenant le temps d'y aller pour la chronique Histoire de lire avec Alex Tremblay-Lamarche. Salut Alex, bonne année pour de vrai.
Bonne année Félix.
C'est la première semaine, donc je me permets encore, première semaine de radio, donc je me permets encore de dire ça. On va recommencer tes chroniques et on va commencer cette année 2022. Chronique Histoire de lire, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils écoutent ça, eh bien, tu nous présentes trois ouvrages. On va faire attention à 2022, on va dire ouvrages pour un peu nous donner le goût, nous donner une petite fenêtre sur le monde littéraire. Autant, j'aimerais savoir, tu me le dis jamais, est-ce que c'est des livres qui sortent dernièrement ou c'est des livres
quand même. Je dirais que c'est des nouveautés littéraires qui datent de la dernière année. Mm-hmm. Dans le cas des trois ouvrages dont je parle, c'est des ouvrages qui ont été qui ont paru dans les 18 derniers mois. Mm-hmm. Donc le temps effectivement de les lire. Je m'autorise effectivement à parler d'ouvrages là, qui ne sont pas encore tout chauds.
Ouais.
puisque bon, des fois il y a des ouvrages que c'est le fun de prendre le temps de les lire, mais j'aime vous faire découvrir des nouveautés littéraires. Et aujourd'hui, je me suis dit, parlons un petit peu politique internationale. Mm-hmm. Parlons un petit peu géopolitique, comme il y a plusieurs choses qui sont sur notre radar, notamment la situation un petit peu explosive en Ukraine.
Ouais.
La situation aussi en Chine avec les Jeux olympiques à venir. Et donc, j'ai eu envie de vous parler de quelques ouvrages qui peuvent nous donner un éclairage sur ces questions-là.
Mais parlons-en. Moi, j'ai très hâte de parler de la Chine, mais avant, tu veux me parler d'un ouvrage qui t'a assez marqué. On parle de la fabrique des États de facto. Je vais te laisser dire le nom de l'autrice.
Oui, Magdalena Dubinska, est une professeure, si je ne m'abuse, au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Mm-hmm. Et donc, elle nous parle des États de facto.
Ouais.
La première question que j'ai envie de te poser... Et je la posais avant qu'on entre en onde et de façon totalement franche et honnête, avant de me plonger dans cette lecture, je n'en connaissais pas non plus la réponse. C'est qu'est-ce qu'un État de facto?
Quand on pense à de facto, c'est un peu par défaut. Un État par défaut, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Moi, quand tu me dis ça pour la première fois, je pense à que ce soit des îles qui n'ont pas nécessairement de pays qui sont reliés. Mais tu me dis une définition que j'ignorais. Je te laisse la dire.
C'est pas très loin de la définition, c'est que ce sont des États qui se proclament indépendants, mais qui ne sont pas encore reconnus officiellement indépendants. Ils sont donc dans une espèce de flou, de zone grise. Ils gèrent leur population, ils ont des programmes politiques, ils ont une fonction publique, mais ils ne sont pas reconnus à l'international. Ce sont souvent des États qui résultent de guerres civiles, mm-hmm. qui ont éclaté entre différents partis et qui n'ont pas connu de conclusion. Des fois, il va y avoir un traité officiel qui va dire « dorénavant, effectivement, telle partie du pays est indépendant et va être connue sous tel nom. » Mais dans le cas des États de facto, ce n'est pas fait. Et Magdalena Dubinska nous parle de ces États de facto en se penchant principalement sur deux exemples qu'elle étudie davantage, deux exemples qui étaient dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, la Transnistrie, qui est une partie de la Moldavie, et la l'Abkhazie, qui est une partie de la Géorgie, mais bon, peut-être pour vous donner des exemples oui, que vous risquez de plus connaître, parce que de façon franche et honnête, moi aussi, je ne connaissais pas ces deux états de facto avant de me plonger dans cet ouvrage. Mm-hmm. Eh bien, Taïwan, c'est une partie de la Chine qui se proclame indépendante ouais. du reste de la Chine, ben, et qui est reconnue grâce à, bon, à un état, effectivement, comme les États-Unis, qui est un petit peu derrière, mais qui n'est pas reconnu sur la scène internationale. Taïwan n'est pas à l'ONU. Mm-hmm. Mais en même temps, ça a cette espèce de statut un peu flou. La Palestine, le Kosovo en Serbie. Et bon, ben, plus près de nous, sur, je dirais, dans l'actualité, on a les régions de Donetsk et de Luhansk en Ukraine, qui sont deux régions russophones qui ont justement déclaré un peu leur indépendance, mais que l'indépendance n'est pas vraiment reconnue, mais qui se gère comme telle. Mm-hmm. Et avec effectivement bon l'évolution du conflit en Ukraine, on peut s'attendre à ce que peut-être que ces États de facto deviennent des vrais États, ou peut-être qu'il y ait d'autres États de facto, d'autres provinces de l'Ukraine qui rejoignent ces deux États-là. Et donc, c'est vraiment des États dont on n'entend pas souvent parler, ouais. mais qui gagnent à être davantage connus et que l'autrice nous permet effectivement de mieux comprendre.
Et du fait que c'est une zone grise, ils sont d'une diversité infinie. On peut parler quasiment d'un spectre de ces États de facto, mais on va parler des deux endroits que l'autrice s'est focussée sur ces deux endroits-là. Pourquoi en général?
Eh bien, elle s'est intéressée à ces deux endroits-là parce que ils sont tous les deux dans l'ancienne Union des républiques socialistes et soviétiques. Que bon, elle est spécialiste un petit peu plus dans cet espace-là parce que bon, des états de facto, on en a un petit peu partout dans le monde. Mm-hmm. Il y en a toujours une dizaine d'actifs. Il y en a une dizaine qui n'existent plus, soit parce qu'ils ont été reconnus officiellement comme des pays, soit parce qu'ils ont été réintégrés volontairement ou par la force dans les pays dont ils étaient sortis. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ce sont deux États qui sont toujours en cours qu'elle a pu étudier en allant y faire du terrain. Et ce qu'elle montre, c'est que on a souvent l'impression que ces États de facto, eh bien, ce sont de simples marionnettes entre les mains d'acteurs qui sont beaucoup plus importants, comme par exemple la Russie dans le cas des États russophones qui de l'ancienne URSS là, qui se déclare indépendant. Mais ce qu'elle met de l'avant, c'est que, bon, les gens de ces États-là sont loin d'être des simples marionnettes. Les États de facto qui réussissent à perdurer dans le temps, c'est parce que les acteurs locaux réussissent à naviguer à travers cette situation-là qui n'est pas évidente et réussissent à obtenir le soutien de la population. Elle identifie notamment bon, quatre conditions pour que l'État de facto puisse réussir. Faut que il y ait une édification des fonctions étatiques qui contribue à reconnaître leur légitimité. Faut qu'il y ait également bon une sécurité, un bien-être économique qui soit procuré à la population, des institutions qui soient mises sur pied pour effectivement bon une fonction publique, éventuellement possiblement un parlement ou du moins un régime politique. Faut qu'il y ait un sentiment identitaire qui se forme, un sentiment d'appartenance. Et il faut également que, bon, il y a un capital symbolique qui se dégage, que, bon, ben, les citoyens et, bon, certaines personnes sur la scène internationale reconnaissent l'État, même si on ne le fait pas légalement. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui permet d'en apprendre plus sur une réalité qui est méconnue de la politique internationale et, bon, des questions, effectivement, d'indépendance au Québec. Bon, on a toujours la question indépendantiste qui, bon, demeure sur le bout des lèvres, même si on en parle moins qu'il y a une vingtaine d'années. Mais c'est ça, se pose un petit peu la question au final. Mm-hmm. Si le Québec faisait son indépendance, mais qu'il n'était pas reconnu par la communauté internationale, eh bien, ça deviendrait un état de facto, même exact. Si on parle quand même de choses qui sont assez différentes. C'est des endroits souvent où il y a plus une guerre civile, mm-hmm. Dans le cas de ceux qui sont étudiés ici.
Ben, mais, j'ai envie de dire aussi, on a une genre de lien avec la France. Qui fera en sorte que ça serait légitime. Avant de passer au prochain ouvrage, j'aimerais que tu m'expliques un peu, une fois que cet état-là est dit de facto, tu nous as parlé de cet intermédiaire entre le public et l'instance politique, mais qu'est-ce qui fait les étapes suivantes à cet état de facto? C'est l'indépendance, c'est quoi?
Eh bien, effectivement, oui, ça peut être l'indépendance proclamée ou ça peut être la réintégration, comme je mentionnais. Mm-hmm. Dans son ouvrage, elle nous offre un petit tableau qui est assez parlant et assez sympathique pour vraiment avoir une meilleure compréhension de ce que sont les états de facto. Et donc, on a la liste des états de facto, on a l'état-centre dont ils émanent, la durée. Dans certains cas, bon, on en a qui sont indépendants depuis les années 1970. Dans d'autres cas, bien, on en a qui ont été, indépendants. Le mot, effectivement, est un petit peu trop poussé dans ce cas-ci, mais qui ont connu un espace de liberté sur une période de 2-3 ans, alors qu'il y en a d'autres que c'est beaucoup plus long. Et comme je mentionnais, soit il y a une réintégration pacifique, soit il y a une réintégration forcée, soit ils réussissent à faire leur indépendance en étant reconnus, effectivement, par la communauté internationale, ou soit ils réussissent à faire leur indépendance, mais sans membership à l'ONU, donc avec une certaine reconnaissance internationale, mm-hmm. mais plus limitée. Et donc, c'est un petit peu les quatre options possibles et ce à quoi on peut s'attendre dans une certaine mesure pour les régions de l'Ukraine russophone qui ont passé là, de ce côté-là en 2014.
J'ai beaucoup de questions, mais c'est
intéressant
c'est une chronique,
comme sujet. Hein?
Oui, c'est ça, c'est une chronique qui doit se faire en une vingtaine de minutes, mais on pourrait en faire 20 minutes juste sur cet ouvrage-là. On va passer au prochain avec la puissance décomplexée de la Chine. Et oui, c'est pas une nouvelle pour personne que la Chine fait partie des puissances mondiales, mais on a essayé de mieux la vulgariser, cette puissance-là.
Exact. Et le terme vulgariser est ici particulièrement à propos parce que, comme tu peux le voir, c'est vraiment un tout petit ouvrage, une cinquantaine de pages dans un tout petit format. Mm-hmm. C'est issu d'une collection qui s'appelle Le Monde en Poche, qui est le fruit d'une collaboration entre le Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal et les presses de l'Université de Montréal. Mm. Et le but, c'est vraiment de rendre accessible des grands enjeux internationaux via des petits fascicules. Donc, je dirais qu'on est à mi-cheval, à mi-chemin plutôt, entre la brochure et le livre, entre un gros billet de blog et effectivement un article de revue de vulgarisation. Et dans ce cas-ci, effectivement, c'est Éric Mottet, qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, au département de géographie, qui nous explique la montée en puissance de la Chine.
Quels sont les éléments importants à retenir de cette t'as dit brochure, et je trouve que c'est quand même un peu approprié là. On parle d'un livre vraiment mince, donc qu'est-ce qu'on en retire de cet ouvrage là?
Eh bien, j'aurais envie de dire dans une certaine mesure que tout est sur la couverture, puisque dans moins d'une génération, on y extrait en fait la citation suivante en exergue: dans moins d'une génération, l'ordre géopolitique et géoéconomique mondial sera manifestement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Grosso modo, ce que Éric Mottet avance, c'est que d'ici 2050, la Chine va être la première puissance mondiale.
Est-ce qu'elle va dépasser les États-Unis?
C'est ce que Éric Mottet avance. Est-ce que elle va le faire dans une perspective un petit peu plus de coopération avec le reste des pays? Est-ce qu'elle va le faire plus dans une perspective hégémonique? Ça, il y a plusieurs théories qui s'affrontent de ce côté-là. Et comment est-ce qu'elle va y arriver? Eh bien, c'est via notamment sa route de la soie, dont Éric Mottet nous parle en long et en large. C'est un projet qui vise à relier la Chine, en fait, au reste du monde. Mais une fois que ça est dit, c'est quand même beaucoup plus complexe. On reprend effectivement le nom de ces anciennes caravanes qui acheminaient les produits de luxe vers l'Occident en Antiquité, pendant le Moyen-Âge, etc. Mais là, cette fois-ci, eh bien, on a la Chine qui développe des corridors, que ce soit des corridors maritimes, ferroviaire, autoroutier, pour vraiment être capable d'exporter, d'importer, mais aussi de diffuser un modèle culturel partout dans le monde. Et ces corridors-là, eh bien, ils s'en vont vers l'Arctique, ils s'en vont vers l'Afrique, ils s'en vont vers l'Occident. Et donc, on a vraiment la Chine qui prend une expansion. Et comment est-ce qu'elle le fait, notamment? C'est en arrivant dans des endroits et en proposant des nouvelles installations portuaires, par exemple, ou à la fine pointe de la technologie, à des pays comme par exemple en Afrique, où on n'aurait pas les moyens de se payer des infrastructures de cette ampleur-là et de cette qualité-là. Et ben, ce faisant, on donne également des contrats à des entreprises chinoises qui, ben, comme la Chine s'est assez bien développée, puis qu'à l'intérieur, ils ont déjà beaucoup d'infrastructures, eh bien, on permet de faire travailler ces entrepreneurs chinois ailleurs dans le monde. Et ben, on place ces États-là aussi dans une position d'une certaine forme de dépendance par rapport à la Chine, parce que ces États-là, oui, effectivement, bon, on leur fait un certain tarif, on les aide à se développer, mais ben, ils s'endettent envers la Chine. Et donc, ben, ils se placent dans une situation de, je dirais pas de vassalité, mais un petit peu quelque chose dans cet esprit-là par rapport à la Chine.
Ben, c'est un couteau à double tranchant, exact. De justement donner, offrir son aide, puis après ça, d'être sous cette emprise-là. C'est assez particulier, cette histoire, cette économie aussi de la Chine, parce que deux générations en haut de nous, mes grands-parents des fois me racontent des histoires qui envoyaient de l'argent en Chine, ouais. Et là maintenant on parle de la Chine qui dépasserait les États-Unis comme puissance mondiale. C'est avec l'ouvrage La puissance décomplexée de la Chine qu'on en apprend plus. On passe à ton troisième. J'ai l'impression que c'est un peu le on a un point de rencontre avec tous les sujets d'aujourd'hui. C'est le choc des légitimités. De quoi est-ce qu'on parle?
Eh bien, c'est un ouvrage du politologue bien connu Alain G. Gagnon. Et là, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus théorique sur la question du fédéralisme. On a au Canada tendance à avoir un fédéralisme qui est très centralisateur. Et Alain G. Gagnon dit que ben on gagnerait plutôt à avoir un fédéralisme multinational, un fédéralisme à la Suisse, qui reconnaît davantage d'autonomie à chacune de ses parties pour être plus fort, parce que bon, les tenants du fédéralisme très, très centralisateur ont l'impression que si on donne de l'autonomie aux partis qui forment la fédération, eh bien, le tout va en perdre de sa force. Mais bon, ce qu'Alain G. Gagnon dit, c'est non. Au contraire, ce qu'on montre, c'est une association de peuples dans un même État. Ce qu'on montre, justement, c'est une puissance internationale qui est capable de regrouper différents groupes ethno-culturels. Et donc, il plaide pour un fédéralisme multinational dans cet ouvrage.
Est-ce que je comprends bien que si on voulait adapter notre fédéralisme ici au Canada, ça serait de donner plus de pouvoir justement à ces provinces-là, donc plus de pouvoir au Québec? La question qui suit, comment est-ce qu'on décide de qui a tel pouvoir? Comment est-ce qu'on répartit tout ça?
Bien, ça, c'est une vaste question, effectivement, mais ce qu'il dit, effectivement, c'est que c'est tout à fait possible d'avoir un Québec distinct qui, bon, ben, aurait par exemple sa loi 21, aurait, bon, sa propre vision de la laïcité et aurait un modèle distinct du reste du Canada et que, bon, bien loin, effectivement, d'affaiblir le Canada, au contraire, ça contribuerait à sa stabilité en nourrissant une loyauté des minorités. Mm-hmm. Et donc, au final, ce qu'il prône, c'est pas si loin que ça de la souveraineté association de René Lévesque. Avoir différentes parties qui forment un tout, qui disposent d'une vaste marge de manœuvre, mais qui, bon, demeurent dans le tout.
Donc, on aurait une marge de manœuvre, mais on n'aurait pas notre pays.
Non,
c'est sûr. si on le formule ainsi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à soutirer de cet ouvrage, Le choc des légitimités?
Eh bien, c'est assez intéressant lorsqu'on regarde les derniers chapitres, puisque, bon, il nous amène sur la scène internationale, sur la reconnaissance des États sur la scène internationale, à une époque où les puissances internationales sont de moins en moins enclines à reconnaître des nations. Et là, on revient au premier ouvrage, ce qui donne effectivement les États de facto, puisqu'ils ne sont pas reconnus par la scène internationale. Eh bien, un État a tout intérêt à être capable de reconnaître ses minorités pour éviter les conflits. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, bon, il le pense dans la dynamique Québec-Canada, mais il le pense également dans la dynamique Première Nation au Canada. Puisque ce qu'il dit, c'est que, bon, on a eu la fameuse commission sur la vérité, la réconciliation avec les Premières Nations, mais il dit, c'est très bien, mais maintenant, donner en fait une vraie souveraineté aux Autochtones, tout en les laissant effectivement dans le Canada, mais en leur donnant un pouvoir qui est réel, et qui n'est plus seulement, bon, dans une forme de vassalité par rapport à Ottawa.
Qui est symbolique. Avant de conclure cette chronique-là, dernière question sur le choc des légitimités. quelle est la différence entre la thèse que l'auteur avance et le multiculturalisme? Est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est un autre multiculturalisme ou comment est-ce que tu vois ça?
Eh bien, ce que Alain G. Gagnon avance, c'est que on a tout intérêt à avoir, bon, des identités qui sont distinctes.
Donc, et qui forment le multiculturalisme. Tout,
comme le multiculturalisme, mais quand même quelque chose qui s'en éloigne, puisque, bon, le multiculturalisme de Trudeau s'inscrit dans une identité qui est post-nationale, où on nie un petit peu les identités. On dit qu'il n'y a plus d'identité,
okay.
Alors, et que, ben, au final, tout le monde est pareil parce qu'il n'y a pas d'identité dans le multiculturalisme, mm-hmm. Alors que, bon, ben, Alain G. Gagnon insiste sur les particularisme et insiste effectivement pour que tout le monde garde son identité. Donc, c'est là où il se distingue des Trudeau, là, père et fils. Mm-hmm. Le père niant effectivement les identités locales et bon le fils effectivement parlant d'identité post-nationale, alors qu'Alain G. Gagnon voulant... il était quelque part entre l'interculturalisme puis le multiculturalisme.
C'est un mélange de tout et je vous invite à en apprendre plus en lisant Le choc des légitimités. On va faire un retour sur tous les ouvrages dont tu m'as présenté. Je te laisse dire les titres et les auteurs.
Oui, La fabrique des États de facto, ni guerre ni paix de Magdalena Debinska. Si vous désirez en apprendre un peu plus sur ces États dont la souveraineté n'est pas encore reconnue sur la scène internationale et mieux comprendre, peut-être vous outiller pour mieux comprendre le conflit en Ukraine. Mmh. Et La puissance décomplexée de la Chine d'Éric Mottet, tous deux publiés aux presses de l'Université de Montréal et comme tu le mentionnais, Le choc des légitimités d'Alain G. Gagnon qui nous permet de réfléchir sur la question du fédéralisme. Je dirais c'est très ancré dans le modèle québécois, mais qui puise également dans le modèle suisse beaucoup, mais c'est des questions au final qui peuvent se poser pour n'importe quelle fédération ou confédération à travers le monde.
On va aller lire et on va continuer de t'écouter à chaque jeudi 17h à ta chronique Histoire de lire. Merci d'être passé à l'émission aujourd'hui, Alex Tremblay-Lamarche. On se dit à la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Salut.
Être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent. Hey, voudrais pas être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
Faudrait
que les humains se réveillent, ouais. Mais faudrait que les humains se réveillent, ouais.
Et vous allez voir qu'en plus de si bien travailler l'art ou l'artisanat, ces gens-là savent très bien s'amuser.
Faudrait que les gens se réveillent, endormis depuis des siècles. Appel à l'aide, mais sans rappel, on fait nos choses, on fait notre baisse. On fait la guerre, on fait la paix. Wake up, faut que tu réveilles. Des gens en temps de la veille. Pogné en quarantaine, non, y'en a pas le monde des merveilles. Like, get drunk dans ton appart. Vodka dans limonade. Boeuf de weed non médical. Je veux du green, j'pars en balade. J'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. Non, j'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. J'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. Non, j'suis pas tout seul, j'ai l'équipage. J'suis dans mon vibe, don't get me wrong. J'fais mes affaires, pas le temps d'attendre. Check dans ma tête sur 2 secondes. Dès que la mouette t'entends, veut pas. Brand new whip and a brand new bond. J'fais mes affaires, maintenant fais so strong. J'en ai des poignées, pis tourner en rond. J'en ai des observés, j'veux faire des actions. Passe mon ballon, j'suis dans la zone. Les yeux d'un dragon, le temps d'une seconde. Y'a pas de punition, la balle qui retombe. Les yeux vers le ciel, le focus d'un lion. J'voudrais pas être indiscret. T'en as combien des regrets? Combien de fois te faites les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
Wake up, mec, t'es pas sérieux.
Wake up mec, tes boss est raide. Pourquoi ça joue l'étoffe quand ça lève même pas le bol pour aller aux toilettes? Je suis rentré dans la pièce, tu sens que j'ai l'étoffe et le charisme. Yeah. Paris BX dans le talis, ça yeah. prend du doux dans ta playlist. Et c'est qui le cave qui a inventé les barrières? Qui? Une carrière et du cash et de trucs j'avais pas hier. Ceux qui suivent les modes vont finir en feu de paille. Je pourrais mettre ma main au feu, je suis prêt à tout parier. Yeah. Qu'est-ce que tu veux si je parle de même de disparaître au bord de mer? C'est pas de ma faute si le bruit des vagues me paraît être un bon remède. En parallèle, je suis dans les vapes. À la recherche d'élévation, une fleur qui pousse dans les flammes, ses pétales en célébration.
Faut que les gens se réveillent, pour chacun de nous, brille une étoile dans le ciel. Si un cheveu sur la soupe, c'est pas si pire, on l'enlève. Combien de fois je l'ai fait, sans savoir où je m'en allais.
Je voudrais pas être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent. Je voudrais pas être indiscret, t'en as combien des regrets? Combien de fois t'as fait les choses sans savoir où tu t'en allais? Dimes, rhymes dans tes oreilles, ça pose la tête aux orteils. Shine bright like a diamond, faudrait que les humains se réveillent.
C'est déjà le temps de conclure en ce jeudi 20 janvier. Ça a passé vite, il est déjà 17h25. De quoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? On a parlé de l'acquisition de ce qu'on a connu sous le nom du Cercle du Dauteuil par l'organisme, par l'équipe du Festival d'été de Québec. On a parlé entre autres à Anne Hudon, qui est la directrice générale du FEC. J'ai jasé aussi avec Émilie Rioux pour avoir son point de vue en tant qu'actrice de la scène locale émergente en musique, en culture. Émilie Rioux a fait tout. J'ai parlé aussi avec Olivier Amiot, la douceur du groupe Festut, parce qu'ils vont être au Québec Rock Fest demain. Il y a même leur album Street Bang qui va être disponible sur toutes les plateformes. Je vous ai parlé de Rideau qui est annulé, du Fuck Off qui va avoir lieu dans le Metaverse. Le Fuck Off, c'est du 21 au 25 février. Je vous ai parlé de plusieurs sorties, mais on s'en reparle demain. On va pouvoir décortiquer ça, écouter ça aussi, parce qu'on a plusieurs sorties qui nous attendent. J'ai fini cette émission à 17h avec Alex Tremblay-Lamarche, la chronique Histoire de lire. Il m'a parlé de trois ouvrages qui parlaient d'actualité politique internationale. Il y a les Jeux olympiques de Pékin qui sont sur le coin, et il y a aussi une situation en Ukraine qui est assez particulière. Il nous a dit, nous a suggéré trois ouvrages pour un peu comprendre ces situations-là, parce que ça vaut la peine de s'informer sur tout ce qui se passe sur notre belle planète. Eh bien, moi, je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit demain comme à tous les jours de la semaine à 16h sur les ondes de Chiz 94.3. J'ai des entrevues prévues, des nouvelles chroniques aussi. Je vous garde ça en surprise, mais on se dit à demain, 16h. Prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao!
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
certitude.
Être au boom bap dans un coin du faubourg, cherche une table pour faire tourner mon premier 33 tours. C'est un single de funk avec des solos tambours qui deviennent magiques quand on les laisse jouer en loop. C'est un concept simple, mais l'énergie vient de là. N'importe quel chemin que t'empruntes, tu peux le reprendre plus qu'une fois. Ce qu'on a démonté hier, aujourd'hui on le reconstruit en gardant les meilleurs morceaux pour former de quoi de solide.
Trouver la loupe, c'est comme un peu n'importe quoi. C'est comme l'amour, tu l'attendais pas, c'est elle qui est tombée sur toi. Le parfait mélange entre deux éléments, la chimie naturelle.